Bienvenue dans Langue de Prune, votre émission sur la langue et la société. Reportages, débats, interviews et vos chroniques sympathiques et éclectiques. D'ici et d'ailleurs, à qui la faute ? L'étymologie en folie. À Langue de Prune, on n'a pas la langue dans nos poches. Tous les derniers mardis du mois, de midi à 13h.
Bonjour à tous et bienvenue sur Langue de Prune, votre émission mensuelle sur le langage, sa pratique et son évolution. Comme chaque mois, nous retrouvons nos chroniqueurs et on est un peu comme sur TPMP en fait quand on y pense. Bonjour Azilis.
Bonjour.
Bonjour Morgane.
Salut.
Bonjour Axel.
Bonjour.
Et bonjour moi. Bonjour. Alors ce mois-ci, c'est le mois de février et contrairement à la demande populaire, on va pas parler d'amour. Bon, faut dire aussi qu'on avait déjà fait cette émission l'an dernier au même mois. Ça finirait par se voir hein, si on recyclait nos sujets comme ça. Non, ce mois-ci, on va vous parler de l'apparition et d'évolution du français, du latin jusqu'à aujourd'hui. Puis bon, le français, il paraît que c'est la langue de l'amour, donc on reste dans le thème. En effet, le français qu'on connaît aujourd'hui, bah, il n'est pas apparu hein, soudainement, comme ça, du jour au lendemain. Hein. Il n'y a pas eu un latin qui a dit à son pote Alia Jacques Taest, ou je ne sais pas comment on dit, je sens que je vais me faire juger très rapidement aujourd'hui. Et le gars, son pote, il lui a pas répondu « Mec, j'ai pas fait latin au collège ». C'est une évolution lente qui s'est faite sur le temps long. Encore aujourd'hui, notre langue, elle évolue. Hein, j'en veux les mots qui sont ajoutés au dictionnaire chaque année. Et ce n'est que pour prendre un exemple institutionnalisé. Ainsi, comme souvent, nous approcherons notre émission avec trois thématiques, avec cette fois-ci un ordre chronologique dans l'évolution du français. Hein. Tout d'abord, Morgane nous présentera l'évolution du latin vers le français. Pour ce faire, elle sera accompagnée de Madame Giraudot, professeure de lettres classiques, auprès de laquelle elle va mener une interview. Bonjour Madame Giraudot.
Bonjour.
Ensuite, ce sera Azilis qui nous présentera l'évolution de l'ancien français. Et on terminera avec Axel qui nous présentera l'évolution du français d'aujourd'hui. Et comme à chaque fois, on retrouvera également nos trois chroniques. La première, d'ici et d'ailleurs, parlera des crayons de papier. Ensuite, à qui la faute s'intéressera à par contre, l'utilisation de l'expression par contre. Et pour terminer, étymologie en folie nous parlera des ordinateurs. Et comme je vous disais, pour commencer, ça va être Morgane qui va nous présenter l'évolution du latin vers le français avec une interview.
Ah, le collège. Je me souviens de cette époque, si lointaine et pourtant pas si vieille. Je me souviens de mes cours de maths ou les heures les plus longues de ma vie. Les cours d'art plastique qui ne m'ont clairement pas fait découvrir un talent pour le dessin enfoui au plus profond de mon être. Mais surtout, surtout, je me souviens de mes cours de français et de latin. Les déclinaisons, les cours de civilisation romaine, pour finalement réaliser que, waouh, mais tout est lié. Tous ces mots, ou presque, que j'utilise en français ont une racine latine. Que notre langue est en fait constituée de cette mystérieuse langue morte qu'est le latin. Et justement, aujourd'hui, on va parler ensemble de cette évolution. Comment sommes-nous passés du latin au vieux français? Y a-t-il eu un élément déclencheur? Nous allons répondre à toutes ces questions avec The Référence en lettres classiques. Madame Fanny Giraudot. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Alors Fanny, tu es professeure de lettres classiques au collège René Bernier à Saint-Sébastien-sur-Loire. Tu enseignes donc en théorie le français, le latin et le grec.
C'est ça.
Mais on peut le dire, bah, le grec n'est plus vraiment d'actualité au collège, c'est vrai?
Non, effectivement.
Voilà. Par contre, le latin trouve encore ses élèves. Le français est une langue vivante. Elle est en perpétuel changement et évolue au fil du temps. Mais elle prend ses racines dans le latin. Alors comment le latin est-il arrivé jusqu'en France?
Alors en fait, tout a commencé avec un certain Jules César. Donc vous en avez tous entendu parler au collège. Winnie, Widi, Wiki. Hein. Donc guerre des Gaules, il s'est pointé et en 7 ans, il a conquis la Gaule. Et c'est là que le changement a commencé à apparaître, hein, puisque la langue romaine est venue supplanter en fait la langue gauloise. Et ça a continué, ça a perduré, et en fait, ça s'est poursuivi jusqu'environ au premier empereur chrétien romain qui lui a commencé à instiller des changements.
Ok, mais alors, donc ce sont les Romains qui ont envahi la Gaule, on est d'accord?
Oui.
Est-ce que les Gaulois le parlaient déjà avant ? Quelle était leur langue à la base ?
Alors, à la base, non, les Gaulois ne parlaient pas du tout romain. Ils parlaient gaulois, si on peut dire, mais en fait, le gaulois, c'est plutôt un mélange de dialectes locaux, en fait, mais qui ont des points communs. C'est pour ça qu'on parle du gaulois. Mais il n'y avait pas réellement une langue construite. Sauf que les Romains n'étaient pas extrêmement tolérants. Donc, en fait, quand ils ont conquis la Gaule, ils ont imposé aux Gaulois de parler leur langue à eux, donc le latin. Et ils ont dû apprendre tant bien que mal. Donc, ça a commencé, en fait, à l'oral. Ils ont écouté et ils ont essayé de reproduire et de comprendre un petit peu ce qu'on leur racontait. Mais eux, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que c'était oral, c'était purement phonétique, c'est là que les premiers changements sont intervenus. Parce qu'en fait, ils entendaient, ils prononçaient ce qu'ils entendaient, mais ils ne savaient pas l'écrire. Mmh. Et en fait, au fur et à mesure, l'écrit du latin a commencé lui aussi à évoluer parce que les Gaulois, eux, entendaient différemment. Donc voilà.
Donc finalement, en fait, c'était une influence à la fois... Enfin, tous les deux se sont influencés, c'est-à-dire que les Romains, ils ont influencé la langue... Enfin, ils ont influencé les Gaulois, comme les Gaulois ont influencé la langue latine.
Exactement.
C'était la rencontre des populations et des langues.
Exactement.
Alors, on sait justement que les textes en latin ont persisté à travers le temps et même quand le vieux français est arrivé. Mais est-ce qu'il y a un événement qui a provoqué ce changement de la langue latine au vieux français ? Est-ce qu'on peut déterminer un siècle, une période ?
Alors, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai que au fur et à mesure de l'histoire, on a vu émerger un latin plus vulgaire, on va dire, un latin médiéval, ce qu'on appelle le latin médiéval. Et ce latin médiéval, il s'est vraiment ancré avec Charlemagne, en fait, sous les Carolingiens. Donc, si je ne dis pas trop de bêtises, on doit être au 8e siècle. Après Jésus-Christ. Et c'est Charlemagne, en fait, qui a commencé à réformer la langue, à faire de ce latin médiéval la langue un peu officielle, et puis à standardiser un petit peu cette langue. Et puis ça s'est poursuivi, et on a réellement vu émerger l'ancien français avec François Ier, en fait, et l'édit de Villers-Cotterêts.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence entre l'évolution de la langue parlée et de la langue écrite ?
Alors oui, il y a quand même des petites différences parce que le latin, en fait, c'est surtout une langue, on va dire, religieuse. C'est la langue du christianisme, donc elle a quand même pris naissance en Italie. Et on a eu une évolution, mais en Italie, elle est restée très classique. Et finalement, les premiers chrétiens et les chrétiens ont gardé ce latin extrêmement classique, extrêmement érudit, alors qu'en fait, à l'oral, le latin antique, il a vite disparu, justement pour des raisons phonétiques, culturelles. Donc il y a quand même une différence effectivement puisqu'à l'écrit il n'a quasiment pas bougé en ce qui concerne les textes religieux, par contre à l'oral il n'a cessé d'évoluer.
Alors on reviendra un peu plus tard justement sur cette histoire de religion et du latin qui est devenu finalement la langue de la religion catholique, mais est-ce qu'on peut dire que parler latin ou parler le vieux français c'était un moyen d'établir des castes sociales ?
En quelque sorte, effectivement, comme je viens de dire, le latin classique, il était réservé aux lettrés, à la population lettrée, donc d'abord les religieux et puis ceux qui avaient accès à une éducation poussée et qui étudiaient justement les textes religieux. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que le peuple, qui était moins lettré, a vraiment développé ce latin oral, enfin cette langue orale qui a vraiment évolué et le peuple a simplifié. À adapter finalement. Et donc, c'est vrai que les paysans, les petites gens parlaient une langue qui avait déjà évolué, alors que les religieux, les nobles, les riches maîtrisaient encore la langue latine, on va dire antique.
Et est-ce que le vieux français, du coup, prend ses racines dans d'autres langues que le latin ? Parce que j'imagine que même si les Romains, oui, ont envahi la Gaule, il y a eu peut-être d'autres influences.
Alors, effectivement. Déjà, l'évolution du latin, en fait, la première évolution, ce n'est pas ce qu'on appelle l'ancien français. La première évolution, c'est ce qu'on appelle le roman, la langue romane. C'est déjà une évolution de ce qu'on appelle, nous, la lingua latina, c'est-à-dire la langue latine pure, classique. Et en fait, elle s'est vulgarisée, donc, cette langue. Et elle s'est vulgarisée, en fait, en faisant des emprunts culturels à toutes les autres langues ou dialectes qu'elle a croisées. Donc, les langues celtiques, bien évidemment, en Gaule, etc. Et puis aussi, bien évidemment, il y a eu l'influence du grec, puisque à l'époque, le bassin méditerranéen, c'est latin et grec. Donc on a aussi des racines grecques dans notre langue.
Et si on rentre un peu plus dans les détails, qu'est-ce qui a changé concrètement, grammaticalement, avec le vieux français ?
Alors ça, c'est un peu plus compliqué, mais l'ancien français, en fait, conserve tout de même des traces des déclinaisons latines, ce qu'on appelle les déclinaisons. Les choses pas sympathiques qui posent des problèmes aux élèves, par exemple,
rosa,
encore aujourd'hui.
Rosa, rosa.
Exactement, comme on va l'entendre tout à l'heure. Donc, on utilise aussi un grand changement, c'est qu'on utilise des pronoms personnels en ancien français. Alors qu'en latin, on n'en a pas besoin. Finalement, la terminaison d'un verbe va permettre d'identifier en fait le sujet de ce verbe. Et bien, en ancien français, on introduit les pronoms personnels. C'est vraiment l'époque où on va les utiliser. C'est pas qu'ils n'existent pas dans l'Antiquité, mais en fait, ils n'en ont pas vraiment d'utilité. Donc ça, c'est une grosse différence. Et puis, on va aussi modifier l'ordre des mots. C'est-à-dire qu'en latin, il n'y a pas d'ordre des mots. On parle comme on veut. On peut parler à la Yoda, en fait. Hein. C'est exactement ça. Les Romains arrivent toujours à se retrouver dans la structure, finalement, de leur phrase. Alors que, par exemple, en ancien français, le complément d'objet direct, par exemple, eh bien, il va passer après le verbe. Et on va toujours construire la phrase de la même façon. Donc voilà, c'est les grandes... Les grandes différences, les grands changements.
Et d'ailleurs, il me semble que maintenant que j'y pense, que l'allemand, si je ne me trompe pas, a gardé des déclinaisons
oui.
du latin.
Exactement.
Et a toujours des déclinaisons. Donc, c'est pour dire l'influence du latin qui est, finalement n'est pas que sur la France et qui est sur absolument toutes les langues, même une langue aussi éloignée finalement que l'allemand qui prend ses racines plutôt dans le germanique, hein, finalement,
oui, c'est
et
ça.
Les langues celtes. Alors, est-ce qu'on peut dire que le vieux français est une simplification du latin ?
Alors, une simplification, peut-être, à ceux qui ont fait de l'ancien français, je ne suis pas sûre qu'ils trouvent que c'est beaucoup plus simple que le latin. Personnellement, pour avoir pratiqué l'ancien français, je trouve ça plus difficile que le latin.
C'est vrai.
Parce que le latin est quand même extrêmement structuré. Donc, c'est peut-être ça qui fait qu'on trouve ça difficile. Mais une fois qu'on a compris, en fait, c'est assez simple à mémoriser. Mais je pense que, en tant que professeur de lettres classiques, je suis très mal placée pour répondre. Je pense qu'il faudrait interroger mes élèves, en fait, pour leur demander s'ils trouvent ça simple comme langue ou pas. Et puis faire une comparaison, peut-être, avec des étudiants qui font de l'ancien français.
Et alors, maintenant qu'on sait que le français a été construit en grande partie à partir du latin, est-ce que tu peux nous citer quelques exemples de mots en français modernes qui prennent leurs racines et qui sont très proches en tout cas de ce qu'on avait en latin ?
Alors ben oui, par exemple, le mot étoile, par exemple. Donc nous, on dit une étoile. En langue romane, on dit une estoile, donc en ancien français. Et parce qu'en latin, on disait stella. Donc, c'est quand même extrêmement proche. D'ailleurs, ça donnait stellaire. Donc, c'est quelque chose qu'on conserve. L'école, c'était l'escole en ancien français. Et c'est scola en latin. Donc, voilà. Et on le retrouve aussi, d'ailleurs, dans school,
oui,
en
c'est,
anglais.
C'est ça. C'est ce qu'en fait, voilà. Beaucoup de la langue anglaise a
exactement,
vachement pris ses
racines. Escuela, en espagnol, c'est la même chose. Le château, qui est le castel, qui est le castellum. Enfin, voilà. Donc, on a beaucoup de mots, effectivement, qui viennent de la langue latine.
OK. Et alors, la dernière question. Aujourd'hui, la seule personne encore capable de parler parfaitement latin, c'est qui ? C'est le pape, on est bien d'accord. Est-ce qu'on sait pourquoi, justement, le latin est devenu la langue de la religion catholique alors que les Romains étaient, eux, polythéistes ?
Alors oui, parce qu'en fait, les Romains sont polythéistes, mais ils sont polythéistes jusqu'à, on va dire, ce que l'Empire romain s'effondre. Oui. Donc en fait, même avant la chute de l'Empire romain, on a des empereurs en fait qui se sont convertis. Donc le premier empereur romain maintenant qui s'est converti, on sait que c'est Constantin. Donc au IIIe siècle, lui, il n'a pas trop touché à la langue. Puis on a eu un autre empereur qui est Théodose. Et lui, il a proclamé que le christianisme devenait la religion officielle. Donc à partir de cet empereur romain, finalement, les Romains n'étaient plus polythéistes. Ils étaient monothéistes. Donc en fait, il y a eu des guerres, des échanges, la christianisation, la chute de l'Empire romain. Et c'est toutes ces choses-là qui ont fait que la langue s'est vulgarisée. Mais malgré tout, qu'elle est restée effectivement une langue de religion qui prend son berceau en Italie, finalement, avec l'émergence de la religion chrétienne.
Donc les empereurs romains se retourneraient dans leur tombe s'ils apprenaient qu'aujourd'hui on ne croyait qu'en un dieu.
Exactement, je pense que Néron ferait une crise.
Bon, eh bien, merci Fanny d'avoir répondu à nos questions et d'avoir éclairé nos lanternes sur cette sombre période pleine d'interrogations.
Eh bien, Eh bien, merci à toutes les deux. Maintenant, c'est beaucoup plus clair pour nous sur comment on a pu arriver du latin jusqu'au roman, puis jusqu'au français. Et pour nous accompagner dans cette découverte, nous allons maintenant écouter la chanson de Jacques Brel, Rosa.
C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les Prospères qui seront la France de demain. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des forts en thème, buitonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin, et qui seront pharmaciens parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango rosa rosé, j'inclinais à lui préférer déjà ma cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des promenades, de parcelles sous les arcades, cerclées de corbeaux et d'alcades qui nous protégeaient des pourquoi. C'est le tango de la pluie sur la cour, le miroir d'une flaque sans amour qui m'a fait comprendre un beau jour que je ne serais pas Vasco de Gama. Mais c'est le tango du temps béni, ou pour un baiser trop petit, dans la clairière d'un jeudi, à Rosie, cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango du temps des héros, j'en avais tant des minces, des gros, j'en faisais des tunnels pour Charlot, des auréoles pour Saint-François. C'est le tango des récompenses, quel est à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Mais c'est le tango que l'on regrette une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épines au rosa. Rosa, 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 rosa.
Langue de prune.
Vous êtes toujours sur Langue de prune 92. Vous êtes toujours sur Prune, même 92 FM, mais vous êtes également toujours avec nous à écouter Langue de prune. J'espère que vous avez pu réviser vos déclinaisons du mot rosa grâce à Jacques Brel. Et maintenant, nous allons laisser la place à Axel pour l'étymologie du mot ordinateur.
L'étymologie en folie.
Alors oui, parce que l'étymologie du mot ordinateur est vraiment particulière, mais a l'air très simple de premier abord. En fait, ordinateur, ça vient du latin ordinator, littéralement celui qui met en ordre, qui organise, qui ordonne. Donc effectivement, ça correspond avec ce qu'on fait avec un ordinateur, et ça a l'air très simple, et je vais terminer comme ça ma chronique.
Merci beaucoup Axel.
Et non, en fait... Parce que ça vous paraît sûrement évident, c'est pas le mot qu'ils utilisaient à l'époque des Romains pour parler des ordinateurs qui s'est transformé après dans la langue française et arrivé jusqu'à nous aujourd'hui pour toujours parler des ordinateurs, forcément. En fait, c'est vraiment une histoire particulière. C'était au tout début de l'informatique, on utilisait pour désigner cet appareil-là calculateur, qui venait de calculatrice, calculer, tout ça. Voilà, ça, je pense que c'est assez compréhensible. Et en fait, c'est la société IBM, qu'on voit beaucoup moins, mais pendant très longtemps, qui était un des gros leaders pour ce qui était informatique, donc la branche française, qui estimait que calculateur, en fait, c'était trop restrictif par rapport à ce qu'on pouvait faire avec un ordinateur, et ça pourrait tromper les gens, justement avec le parallèle avec calculatrice. Et du coup, ils ont lancé un appel, ils ont recherché ce qu'ils pourraient utiliser comme mot, Et du coup, en 1955, il y a un professeur de philologie et latiniste aussi, Jacques Perret, qui leur propose le mot « ordinateur ». En fait, il leur envoyait une lettre que la société IBM a gardée et que, du coup, qui est accessible maintenant sur Internet, qui est une archive, qui est restée, et qui est en fait la trace la plus ancienne aussi de néologisme comme ça qu'on ait. Donc, il a proposé « ordinateur » en parlant un peu de l'histoire du mot, qui était en fait surtout utilisé à des termes religieux, enfin qui était lié à des termes religieux, par exemple tout ce qui est l'ordination, des choses comme ça. Et en fait, du coup, IBM l'a utilisé, a sélectionné ce mot-là, l'a utilisé dans les publicités, etc. Et ensuite a été utilisé par le grand public de manière naturelle, j'ai envie de dire. Ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs que IBM a aussi nommé, par exemple, la disquette. On s'en sert plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était assez important pour les ordinateurs. Et en fait, ça vient directement du mot anglais « disquette » avec un K. Et ils se sont dit que « disquette », ça passait en français, qu'il n'y avait pas besoin de faire toute une recherche et de demander encore une fois à quelqu'un. Voilà, donc « ordinateur », un terme assez particulier. Et un petit parallèle, du coup, que je fais avec ma chronique à la fin d'émission, mais je ne vais pas en dire plus parce que je vous révélerai ça tout à l'heure.
Quel suspense! Eh bien, merci beaucoup Jacques Perret hein, pour nous avoir permis de nommer les ordinateurs, sinon on ne les appellerait pas. Et maintenant, ça va être au tour d'Asilis de nous parler de l'ancien et du moyen français.
Et oui, on va revenir au Moyen-Âge. C'est à partir du 9e siècle qu'on commence se rendre compte, comme le disait Fanny, qu'on ne parle plus vraiment latin et plutôt français. Alors évidemment, ce n'était pas le même français qu'aujourd'hui. On parle d'ancien français entre le 9e, 10e siècle et le 13e, 14e siècle. Après ça, c'est le moyen français, donc pour la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. C'est un peu la période où le français est devenu la langue officielle du Royaume de France. Ces termes d'ancien et de moyen français, ça désigne les langues d'oïl qui étaient parlées dans le territoire actuel de la France, mais au nord de la Loire. Aussi les langues qui étaient parlées dans la Belgique actuelle et dans ce qui correspond au canton du Jura, c'est hyper précis, en Suisse romande. C'est des langues qui sont peu connues parce qu'elles sont lointaines, on en a peu de traces. Et aussi parce que le Moyen-Âge a longtemps été perçu comme une période noire de l'histoire, à oublier plus qu'à étudier. Résultat, on a plein d'idées reçues sur l'ancien et le moyen français qu'on va essayer de déconstruire ensemble. Alors, première idée reçue, l'ancien français, c'est juste du français qui fait un peu vieux. C'est ce que je me disais, moi, quand j'étais jeune et insouciante. Et puis avec Axel, on est arrivé à notre premier cours d'ancien français. Oui. On devait lire un livre sur un chevalier de la table ronde. Et je sais pas toi, mais moi, je comprenais rien. Alors, heureusement, il y avait la traduction à côté. Donc, j'en entends qui rigolent, là. Mais j'aimerais bien vous voir, vous, écouter l'ancien français et voir si vous comprenez quelque chose. Donc, on va faire un petit jeu.
Je
sais pas si t'as le droit de participer.
Non, mais pas assez pour bien connaître.
Ok, je propose de t'exclure de ce jeu, Fanny.
J'en ai fait aussi. Jeu.
Alors, on va écouter le début d'un poème du XIIIe siècle. Donc, je n'ai pas choisi un truc trop vieux, je suis sympa. C'est La pauvreté Rutebeuf. En fait, c'est Rutebeuf qui raconte au roi à quel point il est pauvre et pourquoi il faut lui donner de l'argent. On va écouter un premier extrait.
Je ne sais par où je commence, tant est de matière abondance pour parler de ma pauvreté.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Je ne sais.
Il ne sait pas quoi dire de plus pour parler de sa pauvreté ?
Oui.
C'est pas exactement
ça. Je ne sais
ça.
Comment justifier ma pauvreté ?
En fait, il a tellement de choses à dire sur sa pauvreté qu'il ne sait pas par quoi commencer. Mmh. Alors, on commence, ça va être encore plus difficile.
Pour Dieu, vos prix, franc roi de France, que me donner quelques chevances, y ferait trop grande charité.
Par Dieu, roi des Français.
Ouais, ça commence comme ça, ouais.
Me donner quelques sous pour m'aider, pour de votre charité, enfin avoir pitié de moi dans ce sens-là.
Exactement,
c'est pas du tout clair ce que je dis, mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée.
C'est si vous me donnez de l'argent, vous ferez preuve d'une grande charité. Allez, un dernier petit extrait, vous vous améliorez de plus en plus.
Vos ravez hors du règne esté, ou tout avouez ma tendance.
Non, mais là, c'était une autre langue, ça.
Il y avait majesté, je crois, dedans. Mais...
C'est vous êtes à nouveau hors du royaume et j'avais placé en vous toutes mes espérances. Est-ce que j'ai bien traduit? J'ai regardé sur internet. Oui. Je vous ai dit que j'étais nulle en ancien français. Alors, c'est vrai qu'en plus, l'ancien français est du 9e siècle, on peut imaginer qu'il est encore plus éloigné.
Et par contre, à l'inverse, le moyen français est plus proche. On comprend beaucoup plus les constructions de phrases et le vocabulaire. Alors, on va passer à une deuxième idée reçue. C'est que la grammaire en ancien français, c'est la même. Il n'y a que les mots qui changent. Alors, on va écouter un petit peu Jacouille.
Alors, bonne santé, les gueux !
Oh, ça, j'ai compris.
Bah oui, on a compris parce que Jacouille, il parle pas vraiment d'ancien français, en fait. Parce que normalement, comme tu le disais, Fanny, il y a une grosse différence entre l'ancien français et le français moderne. C'est qu'il y a des cas en ancien français, comme il y en avait en latin. Donc, deux cas au lieu des six du latin. Le cas sujet, qui permet de marquer que le groupe nominal, par exemple, c'est le petit loup, et le sujet ou l'attribut du sujet. Et le cas régime, qui permet de montrer que ça a une autre fonction dans la phrase. C'est tous les trucs qu'on a appris, comme COD, CCL et tous ces mots-là. Et en fait, ces cas, ils se manifestent par les terminaisons, du nom, du déterminant, qui vont être différentes. Donc peu importe où se trouve le groupe nominal, comme le petit loup dans la phrase, on va savoir si c'est le sujet ou pas. Donc du coup, l'ordre des mots, même s'il est plus strict qu'en latin, il est quand même plus souple que dans le français d'aujourd'hui. Et en moyen français, par contre, ça disparaît, il n'y a plus de cas. Et alors maintenant, parlons un petit peu des mots de l'ancien français. Alors, il y en a qu'on peut reconnaître, qui n'ont pas trop changé, puis il y en a qui ont pas mal évolué, ou même qui ne sont plus du tout utilisés, parce qu'on les a remplacés par des mots avec une autre origine. Donc, je vais vous dire quelques petits mots, à vous de deviner ce que ça veut dire. Alors, le premier, je pense que le premier, c'est faisable, c'est la ménestralderie. Ménestralderie.
Maître.
Ça commence comme
ménestrel. La musique.
C'est
l'art de la musique.
Ouais, c'est ça, c'est l'art d'être ménestrel. L'art de faire. Alors, un autre qui m'a beaucoup marqué en cours d'ancien français, c'est le valet. Ça n'avait pas le même sens à l'époque.
Le valet n'avait pas le même sens.
En fait, à l'époque, ça voulait dire le jeune garçon. Ça pouvait même être le fils du roi. Et petit à petit, je ne sais pas pourquoi, c'est devenu le serviteur.
Ok.
Et après, en moyen français, on a commencé à faire beaucoup d'emprunts. Les érudits ont formé des nouveaux mots à partir de racines latines, italiennes ou grecques. Parce que c'était la Renaissance, on voulait à tout prix oublier ces vilains mots du Moyen-Âge. Alors, troisième idée reçue, la prononciation est très proche du français moderne. Alors, on peut se dire ça parce que quand on lit un texte en ancien ou moyen français, les mots sont écrits à peu près comme maintenant. Même si on ne les comprend pas, l'écriture ne nous choque pas trop. Donc, on se dit que ça devait se prononcer à peu près pareil. Pas du tout, parce que l'orthographe était très proche de la prononciation. En tout cas, d'une prononciation. Il y a des lettres, par exemple, qui sont silencieuses aujourd'hui et qu'on entendait à l'époque. Montée de Linguisticae dit qu'en fait, si on entendait quelqu'un là nous parler en ancien français, on se dirait « Ah, il a l'accent du Sud » ou « Il est italien, il est espagnol ». Mais en fait, c'est assez difficile de savoir comment on prononçait vraiment l'ancien français, parce qu'on n'a que des sources écrites et la prononciation dépend beaucoup de la période et de la région. C'est le cas de la terminaison des verbes en « oie » qu'on associe immédiatement à l'ancien français.
Le roi François mangea moult chapons.
Le roi François mangea moult chapons.
Alors, il y a sûrement un moment et un endroit où on le prononçait vraiment oua, mais en fait, généralement, on le lit oué ou oué, comme dans c'est mouais. Ce qui explique qu'après, le oué s'est transformé en ai, et toi, étais. Mais en fait, c'est compliqué parce que ça dépendait beaucoup des régions. Alors on passe enfin à la dernière idée reçue, enfin il y en a encore d'autres mais je ne vais pas parler de toutes, c'est l'ancien français était parlé partout en France. Il n'y avait pas vraiment un ancien français mais des anciens français. En fait différentes langues d'oïl. Comme aujourd'hui, en fait il y a des différences dans les régions, il y en avait déjà à l'époque. Et on connaît ces langues que par les sources écrites. Les premiers écrits qu'on a en ancien français étaient en anglo-normand, la langue parlée en Angleterre. Par exemple dans les Lais de Marie de France, c'était des poèmes. Ensuite, il y a eu des textes en picard. Ça représente une bonne partie des textes en ancien français, en fait. Il y avait aussi des textes en lorrain. Et puis enfin, ensuite, en ordre d'importance, on va dire, en matière de nombre de textes, les textes en francien, la langue qui était parlée autour de Paris. Donc on voit que ce n'était pas du tout le plus. Toutes ces dialectes, toutes ces langues, on les connaît du coup que par l'écrit. Donc on parle de scriptae, c'est des dialectes écrits. Et puis, il y avait quand même déjà une sorte de scripta, de dialecte écrit, qui permettait de communiquer entre les régions. C'est ce qu'on appelle le français central. Et toutes ces langues d'oïl, elles ont évolué pour devenir le français moderne, mais aussi les autres langues qu'on a au nord de la Loire, qu'on appelle souvent des patois, comme le gallo, le normand, le wallon.
« chevalier mout estes moabit, quand eu avus falsa clamur, destours et des moabit, qui divun faest et des.
Moi, je vais pas vous demander de traduire.
Merci, c'est gentil.
Et puis ensuite, du XVIe au XVIIIe siècle, on est passé au français classique. On a commencé à normaliser la langue, notamment en fixant l'orthographe. Et puis après, le XVIIIe siècle, le français moderne, le français d'aujourd'hui. Bon, moi, je vais m'arrêter là. Je vais arrêter un petit peu avec mes vieilles histoires.
Donc on est arrivé au français d'aujourd'hui en fixant l'orthographe. Est-ce qu'on ne devrait même pas un peu dire merci l'Académie française? Oh mon Dieu! Eh bien, merci beaucoup Azilis. On va de nouveau se laisser sur une petite interlude musicale avec Maître Frelon qui nous referait une reprise médiévale d'Orelsan avec Terre et Toi plate.
Au fond, je crois que Terre et Toi plate pour une seule bonne raison. Une seule pensée maladroite reviendra à voir l'Inquisition.
Enviez un attelage pour vous rendre au champ. Devez troquer récolte contre maigre jument.
Maigre jument.
Mirez-vous y celui cercle vicieux. Point de mettre à chaleur au sein des cœurs des gueux.
Cœur des gueux.
Point de noblesse d'en vouloir faire le tour. Terre est-toi plate et le sera toujours.
Sera toujours.
Point ne suis couard mais suis docile et le clergé surveille déjà mon domicile. Je veux profiter des gens que j'aime. Je veux prendre le temps avant que l'Inquisition m'emmène. Et vu centaines de gueux sur le feu, point ne veut finir de même.
Au fond, je crois que Terre est-toi plate pour une seule bonne raison. Une seule pensée maladroite reviendra à voir l'Inquisition. Au fond, je crois que Terre est-toi plate pour une seule bonne raison. Une seule pensée maladroite reviendra à voir l'Inquisition.
Les bardes à l'auberge chantent des calembres d'aine sur des explorateurs du bout du monde qui seraient revenus indemnes. J'essaye de trouver l'équilibre. Faut-il croire les rumeurs ou ce qu'on lit dans les livres? En haillons que ce soit au champ ou chez moi, en priant pour un beau jour où l'impôt baissera. Ce soir j'irai voir la guilde en attendant. Merci d'écrire, vos mots me touchent, ils sont splendides. En ce jour, tout va bien. Tâchons de ne rien gâcher si l'on veut vivre demain. Laisse-toi de réponses dont j'avoue besoin. Nous verrons bien si j'en trouve en chemin.
Au fond, je crois que Terre est-toi plate pour une seule bonne raison. Une seule pensée maladroite reviendra à voir l'Inquisition. Au fond, je crois que Terre est-toi plate pour une seule bonne raison. Une seule pensée maladroite reviendra à voir l'Inquisition.
Pourquoi brûler vif tous ceux qui veulent savoir,
savoir.
Ne suis qu'un gueux avec de jolis chants.
Jolis chants.
On s'épanouit avec les belles histoires.
Histoire.
Estions trop jeunes pour être oxy maintenant,
oxy maintenant.
Pourquoi brûler vif tous ceux qui veulent savoir,
savoir.
Ne suis qu'un gueux avec de jolis chants. L'on s'épanouit avec les belles histoires.
Belles histoires.
Estions trop jeunes pour être oxy maintenant.
Au fond, je crois que Terre est-toi plate pour une seule bonne raison. Une seule pensée maladroite reviendra à voir l'Inquisition. Au fond, je crois que Terre est-toi plate pour une seule bonne raison. Une seule pensée maladroite reviendra à voir l'Inquisition. Au fond, je crois que Terre est-toi plate pour une seule bonne raison. Une seule pensée maladroite reviendra à voir l'Inquisition.
À lui, Maître Frelon qu'on l'appelle. C'est un barde de la cour qui aurait tenté de faire un coup d'état. Et il s'était mis le clergé à dos de toute façon. Tu sais ce que j'en pense, moi, de ces saltimbanques. Enfin bref, défense de glandouiller.
Retrouvez Langue de Prune en podcast sur prune.net.
Et nous voilà de retour sur Langue de Prune. Et cette fois-ci, ça va être à mon tour de vous parler dans la chronique à qui la faute. Et je vais vous parler de l'utilisation de l'expression par contre.
À qui la faute ?
Je vais donc commencer cette chronique en posant une question sur le plateau. D'après vous, est-ce que par contre, c'est une faute de français ? Par contre.
Bah non.
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 Ah, c'est bien, il y a une grande...
Non.
Bon, bah, il y a une grande unanimité, bravo, super. Eh ben, ça n'a pas toujours été le cas qu'on soit d'accord pour dire que ce n'était pas une faute de français, même si, bon, aujourd'hui, on l'admet. Spoiler alerte, on va encore parler de l'Académie française un moment. Alors, tout d'abord, il faut savoir que par contre... Bah, c'est pas récent comme expression, hein. ça remonte un peu. On la relève pour la première fois au XVIe siècle, dans l'écrit d'un théologien, hein, il s'appelait Jean Calvin. Et on la retrouve à la même époque, dans d'autres langues. Hein. Bon, ce sont des équivalents, hein. Il y a « per contra » en anglais, « per contro » en italien, vous excuserez mon accent comme d'habitude. De toute façon, la dernière fois, j'ai déjà massacré la langue allemande, on n'est pas à ça près. Donc on n'a pas spécialement de traces de ce qu'ont pensé les contemporains lettrés du XVIe siècle, hein, quant à l'utilisation du par contre, il faut attendre le 18e, hein, le 18e siècle, pour que Voltaire y jette un peu un pavé dans la mare. C'est en 1737 qu'il nous fait savoir que « par contre », c'est pas mal utilisé dans le langage commercial à son époque, et en gros, il voudrait bien que ça reste comme ça, hein, que ça déporte pas dans l'usage général. Bon, évidemment, je l'ai un peu teasé, l'Académie française a fini par s'en mêler. Donc en 1835, l'Académie française, elle autorisait le « par contre » uniquement dans un cadre commercial, comme Voltaire. Donc elle a reconfirmé cet avis en 1878, et cet avis, il n'est pas resté lettre morte. J'en veux le dictionnaire de la langue française, hein, d'Émile Lettré, on ne choisit pas son nom, mais il était bien choisi, qui a connu, son dictionnaire, il a eu deux éditions à la fin du 19e siècle, et dans ce dictionnaire, il rejoint la position de Voltaire, mais d'une manière un peu plus timorée. Il estime que par contre, ça peut se justifier. Hein. Il utilise d'autres exemples qui sont composés de deux de prépositions, comme par contre. Donc, les exemples qu'il utilise, c'est de contre, d'après. Mais il insiste aussi sur la nécessité de conserver par contre, encore et toujours, dans un style uniquement commercial. Alors, apparemment, c'est parce qu'on disait par contre-envoi à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que c'était vraiment utilisé dans un milieu commercial. L'Académie française, elle a quand même toutefois fini par bannir ce terme en 1932, puis de le réautoriser un peu plus de 50 ans plus tard, en 1988. Il n'y a plus eu de changement d'avis hein, après ça de la part de l'Académie française, mais en gros, elle considère que par contre, ce n'est pas une erreur de français, mais qu'en fait, c'est moche. Et il faut préférer l'usage de n'importe quel autre adverbe à la place, comme « en revanche », par exemple. Bon. Après, même ses membres l'utilisent. Hein, y a environ une quarantaine d'académiciens qui l'ont utilisé dans leurs ouvrages. On a même un autre académicien, Abel Herman. Il est mort en 1950, hein, on ne peut pas lui envoyer de lettres aujourd'hui. Et il l'utilise plusieurs fois dans ses propres ouvrages. Puis un peu plus tard, il le condamne en tant qu'académicien. Bon, ouais, pas très constant, hein, le monsieur Herman. Mais bon, malgré toutes ces élucubrations... Par contre, est en réalité entré dans le langage courant dès le 19e siècle. Il n'a pas fallu attendre il y a 50 ans pour que ça rentre dans le langage courant. Il n'a pas fallu attendre l'avis de l'Académie française. Il y a plein d'auteurs qui l'ont allègrement utilisé. Hein, pour en citer que quelques-uns, il y a Maupassant, Saint-Exupéry, De Gaulle et plein d'autres. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'on peut utiliser par contre. Il n'y a pas de surprise, tout le monde l'a dit au départ, ce n'est pas une faute de français, ce n'est pas une surprise pour qui que ce soit. Ça reste quand même parfois un élément de débat sur le fait que ce soit apparemment moche. Mais dans la linguistique, la beauté ou la mocheté de la langue, ce n'est pas ce qui est le plus important. Mais du coup, il peut être préférable d'utiliser d'autres expressions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en revanche, ça va dépendre principalement en fait, du style de votre texte, de votre écrit ou de votre oral. Genre, dans une copie de partiel, ça peut le faire, mais on va éviter... Dans un article académique, c'est mieux de l'éviter, mais ce n'est pas rédhibitoire. Et voilà, c'est ma conclusion. Pour le par contre, j'ai encore senti que j'ai un peu parlé un peu plus fort, on m'a fait des gestes. Et du coup, je vais laisser ma place à Axel, qui va nous parler de l'évolution du français d'aujourd'hui.
Alors, entre du coup, le français du début du 20e ou fin 19e même, et le français qu'on parle aujourd'hui, il y a eu, je vous l'apprends, pas mal de changements, mais qui sont plus ou moins, on va dire, remarquables de notre point de vue. Je vais commencer par ceux, en fait, pour lesquels on se rend moins compte, c'est les changements phonétiques, tout simplement parce qu'on n'a pas tellement d'enregistrements de ce qui se faisait au début du siècle dernier ou à la fin du siècle d'avant encore. Par exemple, il y a eu une quasi-disparition de différenciation de certaines voyelles. Généralement, ça se voit en fait, au niveau de l'orthographe qu'il y avait une différence, mais on ne la prononce plus, ou il n'y a que sur certains accents en France qu'on va encore les prononcer. Par exemple, pâte de chat, pâte à gâteau, on prononce ça pareil. Pâte, normalement, c'est deux prononciations différentes. Brin d'herbe, ours brun, pareil, on prononce ça maintenant de la même façon, alors que ce n'était normalement pas exactement la même prononciation. Par contre, il y a eu à l'inverse, ça très certainement du fait de l'alphabétisation qui a quand même beaucoup progressé en France depuis l'époque, des consonnes qui n'étaient plus prononcées et en fait présentes à l'écrit et qui sont prononcées maintenant. Par exemple, dompté, qui se disait dompté, maintenant on prononce presque le P. Meurs aussi, avant on disait meurs, maintenant on prononce le S à la fin. Out, qui se disait juste ou à la fin, avant. Et cassis, où on disait juste cassis. Il y a aussi d'autres petites différenciations à l'oral. Par exemple, bon, ça, les académiciens, etc., on parle assez souvent, mais le passé simple qui disparaît à l'oral, l'imparfait du subjonctif, le plus que parfait, les temps comme ça un peu compliqués. Mais en fait aussi, c'est que maintenant, ces formes-là sont toujours utilisées à l'écrit, mais en fait, comme on les entend beaucoup moins, ça crée une dissonance et tout de suite, ça ressort, ça fait bizarre, ça fait un peu marrant même, donc elles disparaissent complètement de l'oral. Bon, par exemple, si je dis « nous fume », ça va encore, mais bon, vous imaginez en conversation quelqu'un qui vous dit « que nous mangeassions, que vous buissiez ce vin ». Forcément, maintenant, en fait, ça nous écorche vraiment l'oreille. Pour le futur aussi, ça c'est plus un petit quelque chose qu'on ne remarque pas forcément. À l'oral, on utilise plus couramment le futur proche « je vais me lever », mais on retourne au futur simple pour la négation. Je me lèverai pas, plutôt que je ne vais pas me lever. Et ça, c'est juste une question d'économie, parce qu'il y en a un, du coup, qui devient beaucoup plus long que l'autre. Mais en fait, évidemment, pour le XXe siècle, ce qui ressort le plus, à l'oral et à l'écrit, c'est les changements de vocabulaire. Et là, du coup, il y a plusieurs sources, en fait, de nouveaux vocabulaires qu'on peut lister. Une des premières sources, c'est l'argot. De base, un argot, c'est une variété linguistique spécifique à un groupe social ou socio-professionnel. Et en fait, avec le temps, certains mots de ces argots vont avoir une portée plus importante. Beaucoup de termes issus de l'argot vont, au fil des générations, passer dans le registre familier, parfois même le registre courant. Par exemple, cambrioler et les dérivés, hein, cambriolage, etc. Ça vient d'un mot d'argot, cambriole, qui voulait dire chambre. Et en fait, maintenant, c'est un mot courant. Le but en fait, d'un argot, c'est créer un langage qui ne sera pas compris par les non-initiés et un peu de s'extraire des normes aussi. Et il y en a un qui le résume très bien, c'est Renaud.
Pour toi, l'argot, c'est pas bidon. Tu crois qu'on parlera toujours l'argot?
Pour moi, il n'y a plus qu'une seule façon de dire qu'un truc est, moi, c'est formidable.
C'est un état permanent.
C'est super, que ça baigne, que c'est cool, que ça craint pas. Je ne vais pas employer les mots du dictionnaire pour dire qu'un truc est super. Je ne vais pas dire c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Un truc me plaît, je dis ça me branche, c'est super. Quand un truc me débecte, je dis pas « cette chose me déplaît », je pourrais jamais dire ça. Je dirais « ça me gonfle, toujours ».
Alors ça, c'était en 81. Ce qui est intéressant, c'est que certains des termes qu'il a cités, on utilise toujours, et d'autres, bon, c'est un peu moins... un peu plus ringard. Mais en fait, c'est ça aussi ce qui se passe avec l'argot, c'est qu'il y a presque une sélection, certains mots qui vont continuer et perdurer dans les générations. Une fois que, généralement, les jeunes qui utilisent cet argot deviennent des vieux, en fait, il y a une partie qui va perdurer, une partie qui va devenir ringarde, en fait. Et une autre modification importante du vocabulaire sur le siècle dernier, qui est toujours très actuelle, c'est l'impact de l'anglais, les anglicismes. Et là, du coup, on revient à l'ordinateur dont je vous parlais tout à l'heure. Presque. En fait, il se multiplie avec le temps. On l'a mentionné rapidement. Avant le 17e, la langue anglaise avait plus d'emprunt au français que l'inverse. Mais en fait, cette situation s'est inversée depuis la fin du 20e siècle. Ça, les anglicismes, ça peut être souvent rattaché à des secteurs particuliers. En fait, ça témoigne surtout des différentes vagues d'influence des États-Unis. Par exemple, tout ce qui tourne autour des machines, pour tout ce qui va être puissance industrielle des États-Unis. Donc, on a tank, bulldozer, tanker, scooter, jeep. Évidemment, pour tout ce qui est plus culturel, le spectacle, le cinéma, la télévision, l'information, on a news, prime time, show, star, showbiz, hit parade, live, zapping, interview, casting, top model. Et c'est des choses où on aurait un peu de mal d'ailleurs à donner un équivalent français. Par exemple, casting ou top model. Voilà, il n'y a pas forcément d'équivalent. Et ce n'est pas ce qui nous vient vraiment naturellement. On en a déjà parlé dans une émission précédente, mais aussi pour tout ce qui est autour du monde du travail, les startups, le marketing par exemple. Je ne vais pas citer toute la liste. Et évidemment, là du coup, c'est vraiment plus le 21e siècle, tout ce qui est lié à l'informatique, aux nouvelles technologies. Et vous en avez sûrement quelques anglicismes.
Sur les nouvelles technologies
là, du coup,
oui.
Bah, laser. Les...
Ah oui.
Oui, oui, par exemple.
Radio.
Oui.
Mmh.
Ouais.
Je crois que c'est aussi issu.
Le web
ah, oui, bah oui, voilà, web. Tout ce qui est lié à Internet.
Un thread.
Un
tweet.
Bah, c'est ça, exactement. Tout ce qui va en fait être lié.
Une story.
Voilà, tout ce qui est lié aux réseaux sociaux. En fait, maintenant, généralement, on utilise le terme anglais et même s'il est.
Un shitstorm.
Voilà aussi. Par exemple, il y a quelqu'un qui a mentionné stream. Il y a eu récemment un terme français proposé pour le mot streamer, qui est joueur en direct. Ça, c'est un terme qui a été proposé par la CELF, la Commission d'enrichissement de la langue française, qui est chargée d'approuver des termes nouveaux proposés par des groupes d'experts.
Ah, je me sens enrichi.
En fait, le problème, c'est que streamer, c'est utilisé depuis plusieurs années maintenant de manière courante. Donc, du coup, forcément, ça ne rentre pas comme ça dans les mœurs. Joueur en direct, c'est plus long. Et en fait, ça correspond qu'à une partie des streamers. Tout le monde, c'est vraiment restrictif par rapport à streamer. Ça, c'est en fait parce que la CELF, c'est une assemblée au sort d'un dispositif interministériel d'une complexité assourdissante. En fait, il me faudrait une demi-heure pour expliquer tous les détails, comment ça se passe, qui est là-dedans. C'est vraiment hyper complexe. Et bon, je le précise quand même, c'est lié à l'Académie française. Il y a plusieurs de ses membres
encore
qui en font
toujours
partie et ils ont le vote final pour la validation des nouveaux mots. Donc, toutes les concertations sont extrêmement longues. Voilà, on parle de plusieurs mois, on n'y trouve personne en plus dont le métier est lié au monde numérique, aux jeux vidéo, et aussi très certainement peu de personnes en dessous de 60 ans.
C'est ça, la moyenne d'âge, ça compte.
Oui, oui, c'est... Voilà. Et donc du coup, là, on revient à ce que je disais sur ordinateur. Beaucoup de mots utilisés pour l'informatique de cette époque-là, en fait, des débuts d'informatique... ont été introduits en fait vraiment au tout début de l'utilisation et c'est pour ça qu'on les utilise toujours maintenant. On parle de souris, on parle de clavier, mais maintenant en fait les institutions sont beaucoup trop lentes par rapport à la vitesse d'internet, des réseaux sociaux et du coup voilà, il y a un écart assez important. Une autre modification de la langue qui a pu faire débat, c'est le verlan.
Les yeuves ont du mal à capter le langage chelou et zarbi des tessis.
Et on gébou à Paris ou on gébou sur Paris?
Paname. Sur Paname.
On gébou sur Paname. On gébou sur Paname, donc. Donc on gébou sur Paname pour aller en Tebois.
Voilà.
Juste pour le pack, on te dise voilà, tu fais plus partie de la MIFA d'en bas. C'est dingue, mais c'est comme ça. Sache qu'ici va plus qu'ailleurs, la survie est un combat. Base de combat, de coups, de combat, d'esquive, de choubert. Ce putain de stromba, laisse pas traîner ton fils.
Le verlan, vous le savez, c'est l'inversion de syllabes d'un mot, parfois accompagnée d'une élision, c'est-à-dire l'effacement de voyelles en fin de mot. Le verlan, c'est plus ancien que ce que l'on croit. Il est surtout utilisé à l'oral, en fait, historiquement, donc on a peu de traces de son utilisation. Par exemple, de l'utilisation qu'il y en avait au Moyen-Âge, la première trace écrite de verlan connue, c'est dans le dictionnaire universel d'Antoine Furtière, qui date de 1690 quand même, avec le mot « verju ». La définition, c'est « on dit c'est verju ou jus vert pour dire c'est la même chose ». Donc c'est bonnet blanc, blanc bonnet, en fait, mais un peu antique, voilà, à l'ancienne. En fait, au long du 19e, le verlan s'est utilisé dans le langage des forçats, de la pègre, toutes les classes populaires, surtout les ouvriers, les artisans de Paris, de la banlieue autour. Et on attribue à Auguste Le Breton l'introduction du verlan dans la littérature, dans son roman de 1953, « Du rififi chez les hommes ». Il faut noter d'ailleurs qu'à l'époque, on écrit le verlan EN à la fin, vraiment comme l'envers, et l'orthographe AN apparaît en 1968. donc principalement utilisé à Paris et aux alentours. Ça s'est popularisé dans toute la France dans un premier temps à travers la musique. Par exemple, Renaud, qu'on a entendu plus tôt avec Les Bétons en 78, Jacques Dutronc en 71. Et puis ça connaît un essor dans les années 70-80 dans les banlieues parisiennes associées au mouvement des blousons noirs. La population maghrébine immigrée représente une grande partie de la population de la banlieue, va apporter une influence supplémentaire sur le verlan. C'est là que les voyelles, qui sont en fait sont moins présentes en arabe comparées aux langues latines, sont souvent élisées. Évidemment, c'est l'émergence de la culture hip-hop dans les années 90 qui pousse encore un peu plus l'utilisation du verlan. Les groupes comme NTM, qu'on vient d'entendre, Sage Poète de la Rue, Assassin, l'utilisent dans leurs textes. C'est besoin de, pour des besoins de rimes, par exemple, ça rend les choses plus faciles. Mais aussi, ils vont introduire donc, beaucoup de nouveaux mots de verlan comme ça, mais aussi des formes plus anciennes en fait, qui remettent, si vous voulez, sur la table et au goût du jour, on peut dire. Et en fait, la dernière étape de la popularisation du verlan, on revient comme une boucle à la technologie, c'est les SMS. Les formes verlanisées en fait, sont souvent plus courtes et plus rapides, plus simples à taper, surtout à l'époque des téléphones avec 9 touches, là. Et du coup, ce qui incite à leur utilisation. Et en fait, c'est ce qui démocratise aussi le verlan, au final, dans des couches sociales plus aisées. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Axel. Eh bien, puisqu'on en a, on a parlé du verlan, je vous propose d'écouter Zao et sa superbe chanson « C'est chelou ».
Mais
langue de prune.
Vous êtes toujours sur Prune 92 FM et de retour avec nous sur Langue de Prune. Je vais maintenant vous parler de crayon de bois, crayon de papier dans la chronique D'ici et d'ailleurs.
D'ici et d'ailleurs.
Donc, comme je viens de vous le dire, aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot qui peut parfois faire un peu débat. Bon, c'est pas non plus pain au chocolat, chocolatine. Déjà qu'avec mes provocations normandes, je ne sais pas si l'émission pourrait survivre une telle controverse. Non, il est question de ce petit crayon au corps de bois et au cœur de graphite. Vous voyez de quoi je parle ? Allez, comment vous appelez ça autour du plateau ?
Crayon de bois.
Crayon de bois.
J'ai peur de ce que tu vas dire. Crayon de bois.
Crayon papier.
Crayon papier.
Moi, je dis crayon de bois aussi.
Eh ben, on a une majorité de crayons de bois. Bon, vous le savez, il y a pas mal d'appellations possibles en France. On en a déjà entendu deux différentes sur le plateau. Moi, déjà, j'en utilise pas qu'une seule, hein, transus de région que je suis. J'utilise aussi bien crayon de bois, crayon de papier ou crayon à papier. Bon, c'est bien une position de normand, ça.
Peut-être d'un quip, peut-être.
C'est un peu ça. Même l'Académie française s'est située sur la question. Toujours elle. Bon, on sent qu'on a un peu de ressentiment hein, par rapport à l'Académie française, c'est pas nouveau. Elle rappelle d'abord que crayon à mine, bah, c'est l'expression originale. Et évidemment, c'est quasiment plus utilisé par personne aujourd'hui. En fait, c'est juste que lorsque ce crayon il a été inventé en 1795 par Nicolas Jacques Conté, il avait nommé ça bah, crayon à mine. Bref, et normand d'ailleurs. Comme quoi, bah, on nous doit vraiment beaucoup entre ça et l'anglo-normand, l'anglais. Bon.
T'habites même plus en Normandie, alors arrête.
Ouais, mais normand de cœur, normand un jour, normand toujours. Enfin bon, l'Académie française, malgré ça, malgré ses torts, accepte aussi crayon de bois et crayon à papier. Bon. Par contre, crayon de papier, bah, déso, pas déso, c'est, vous avez tort. Enfin, ça va, parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir tort, puis c'est l'Académie française dont on parle, enfin bon. Il y a plein d'autres expressions. Bon, on a eu crayon papier, enfin, il y avait des crayons papier, pas crayon de papier ou crayon à papier, c'était crayon papier. Il y a aussi, dans le sud de la France et autour de Perpignan, et un peu une partie de la Bretagne, pas autour de Rennes, il y a juste Rennes qui ne le dit pas, ils disent crayon gris. On fait simple, hein, on a regardé la couleur du trait et on a nommé le crayon, hein, un peu à l'anglaise quoi. Tout le long de la frontière allemande, on ne se prend pas la tête non plus, c'est juste un crayon. On appelle ça crayon. Comme ça, c'est pratique, hein, on ne cherche pas. Ça doit être la nature très sobre et descriptive de la langue allemande hein, qui a dû influer la région au début du XXe siècle. Enfin, je ne sais pas, je fais juste des suppositions. Et puis, il y a les trois expressions les plus populaires. Hein, bien que l'Académie française ne reconnaisse pas l'usage de crayons de papier, bah, ça reste la plus utilisée, principalement dans le centre-est du pays. Il y a crayon à papier, l'expression la plus utilisée, ça fait deux expressions les plus utilisées. Non, crayon à de papier, c'était la deuxième. Maintenant, c'est crayon à papier, c'est l'expression la plus utilisée. On va surtout la retrouver autour de la Normandie et de l'Île-de-France et de la majorité sud du pays. Et enfin, on a crayon de bois, c'est la troisième la plus utilisée, mais qui reste assez marginale hein, par rapport aux deux autres. On l'entend bah, surtout dans le Pas-de-Calais et autour du pays de la Loire. Il faut bien que les Ligériens puissent se différencier. Enfin bref, tant de mots pour parler d'un seul objet du quotidien. Et encore, c'est sans parler des crayons de couleur ou du taille-crayon. Enfin, les Québécois appellent ça un aiguiseur. Là-dessus, sur ces bons mots sur les crayons de bois, crayons à papier et tout ça, il va être le temps de conclure. On a vu l'évolution du français, du latin jusqu'au SMS, du latin jusqu'au roman, du roman, l'ancien français, les anciens français... et les anciens français jusqu'à aujourd'hui, et même le verlan. On pourrait un peu supposer les évolutions à venir, mais je ne pense pas vraiment qu'on puisse deviner hein, ce qu'on va dire demain.
Moi, je dis beaucoup plus d'anglicisme.
Peut-être beaucoup plus d'anglicisme. On en dit déjà pas mal aujourd'hui, hein, c'est possible. Qui sait, hein, peut-être qu'il y aura un grand changement et que ce sera des hispanicismes, j'en sais rien. Enfin bon, là-dessus, on va vous laisser et on se retrouve, je n'ai pas la date exacte, mais c'est le dernier mardi du mois, le dernier mardi de mars.
Voilà. On se retrouve à un moment.
On se retrouve, un jour. Promis, on reviendra. Eh bien, merci à vous. Et puis, on vous dit au revoir et à la prochaine.
Au revoir.
À plus dans le bus, à plus tard dans le car, à bientôt dans le métro, à mardi dans le taxi,
à très vite
dans le cockpit.